Embarquez pour l'environnement de travail du futur avec Celseon, expert en virtualisation du poste de travail. Un dossier à retrouver sur le site visionarymarketing.com.
L'innovation et la production ont toujours été opposées dans le sens où la vision, la meilleure vision de la production, c'est la sanctuarisation de celle-ci. C'est-à-dire qu'on doit avoir une base solide, méthodologique, robuste, sécurisée, qui permet de délivrer le service aux utilisateurs de l'entreprise pour qu'ils puissent faire leur business. En revanche, aujourd'hui, le monde va très très vite. Il y a des changements de paradigme au niveau des développements, au niveau des environnements de travail, comme on l'a déjà vu. Et sans une dose d'innovation, on va rigidifier l'entreprise en partant sur des pratiques du passé. Donc aujourd'hui, on doit regarder avec les nouveaux problèmes, les nouveaux écosystèmes. Alors effectivement, la prod doit être innovante. C'est pas pour ça qu'elle va s'appuyer sur des produits qui ne sont pas terminés ou des concepts fumeux. Il y a deux visions. Il y a l'innovation côté éditeur et constructeur, donc qui eux vont délivrer des choses nouvelles avec une vision nouvelle en partant d'une feuille blanche en fonction de ces nouveaux paradigmes, et puis après les DSI qui vont pouvoir eux intégrer ces nouveaux logiciels, plateformes SaaS ou matériels et qui vont rendre leur production innovante. Une entreprise aujourd'hui, elle attend que son système d'information soit actif en permanence, en 24/7, quelle que soit la plaque continentale, si c'est une société internationale sur laquelle elle se trouve, etc. Mais elle attend aussi de réconcilier la réactivité de l'IT avec le besoin de réactivité du business. Ça passe notamment par la mise en production continue, ce qu'on appelle le continuous delivery, c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir accélérer en fait la mise en place de nouvelles fonctionnalités de manière très très rapide, mais aussi de manière robuste, sans oublier également bien les contraintes de sécurité qui sont de plus en plus importantes vu le risque cyber. Donc c'est effectivement une nouvelle vision qu'on doit avoir de la production. C'est pas pour autant qu'elle doit pas celle-ci s'appuyer sur des bonnes pratiques comme ITIL en s'appuyant effectivement sur un socle solide, des process robustes, mais en les améliorant et en intégrant de nouveaux concepts, notamment de containerisation. La containerisation va faciliter la réactivité dans la mise en production permanente de nouvelles fonctionnalités sans perturber le reste de la production. Ce concept est nouveau dans l'entreprise et n'est pas sans poser de problème organisationnel, puisque j'ai d'organisation entre les études et la production qui ont souvent été en opposition, vivant l'un à côté de l'autre sans vraiment d'interaction entre les deux. Chacun rejetant souvent la faute sur l'autre quant aux mauvaises performances ou à la mauvaise stabilité des plateformes. Donc cette organisation aujourd'hui bien doit se décliner autrement avec un lien entre les infrastructures et puis les développements qu'on appelle les ops en fait, qui est un nouveau métier qui intègre le développement de plateformes industrielles qui vont permettre de faire cette mise en œuvre continue des nouvelles fonctionnalités délivrées par le développement. Alors de plus en plus les entreprises intègrent du DevOps dans leur organisation, c'est qu'ils scindent en fait d'un côté les infrastructures des couches basses, de l'autre côté les développements comme ils existaient par le passé, et entre les deux une nouvelle organisation, l'organisation des ops, qui va permettre de faire le lien d'automatisation entre les deux. Alors, sachant que ces ops s'appuient pas nécessairement sur la containerisation, mais simplement sur des développements, des scripts qui vont permettre d'automatiser un certain nombre de tâches. Aujourd'hui, effectivement, la containerisation est un facilitateur. Avant tout, en fait, ce sont pas tellement des sujets techniques, ce sont des sujets organisationnels de l'IT, de la même manière que de passer au cloud computing n'est pas un sujet technique. Il s'agit pas de faire de la virtualisation ailleurs que dans ses data centers. Il s'agit de se réorganiser afin d'optimiser sa production, ses coûts, la facilité. Et plus on devient multi-cloud, plus la nécessité d'automatiser et d'intégrer la containerisation est importante. Il suffit de regarder les grands cloud providers que sont Amazon, Google ou encore Azure sont massivement automatisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on crée un cloud. Nous, on a l'habitude de le faire pour un certain nombre de clients. Avec trois clics, on crée les VM. On n'interagit même pas avec le cloud provider. On peut passer par un intermédiaire qui est une plateforme de marché sur laquelle on va builder notre cloud, nos VM. Et derrière, tout est automatisé. Après, tu parlais de containerisation et surtout d'orchestration de ces containers. Et c'est là qui est la clé. Multiplier les containers, c'est-à-dire les microcodes, s'ils ne sont pas orchestrés, c'est juste ingérable. Tout ce qui est niveau de versionning, etc., sécurité, bah, c'est compliqué quand on a quelques applications que l'on a développées. Quand on les multiplie à travers des containers, bah, ça devient encore de plus en plus complexe. Et aujourd'hui, il y a à travers notamment des expérimentations d'intelligence artificielle. Il y avait un article hier sur le journal du net qui était assez intéressant, un article de Yann Pelmans qui parlait de l'IA dans la production. Je pense que c'est une voie qui va se répandre. Alors aujourd'hui, pour automatiser ou détecter de manière prédictive les incidents, mais il y a demain qui va pouvoir, en fonction des besoins, pourquoi pas offrir de l'élasticité automatique ou de la flexibilité automatique à une infrastructure. Sur la création de containers, on a eu deux acteurs, les principaux que sont Docker et Kubernetes. Donc Kubernetes qui est rentré dans le giron de VMware à travers le rachat de notamment Pivotal pour créer l'offre PKS. Et ces containers derrière sont orchestrés par PKS, comme on le disait, mais aussi OpenShift de Red Hat ou Rancher, qui sont les offres qui ressortent du marché. En sachant que, comme on peut lire dans l'étude du Gartner, les clients ont du mal à s'y retrouver parce qu'il y a pléthore d'offres avec un certain nombre de niveaux différents d'orchestration, des couches les plus basses au niveau du container jusqu'aux couches les plus hautes. Donc, c'est assez difficile de s'y retrouver. Ce qui est intéressant, en fait, dans la vision de VMware, c'est qu'en fait, le sujet de l'orchestration des containers est un sujet de production informatique et non pas de développement. Et que c'est la vision, c'est que c'est aux personnes de la prod d'offrir des plateformes d'orchestration pour que, au fil de l'eau, les études déploient leurs applications et que bien ça passe en production totalement automatiquement. En fait, les développeurs ont pris la voie à travers l'émergence d'Internet, d'HTML, puis HTML4, HTML5, etc., etc. Et aujourd'hui, il existe, alors on n'appelle pas ça des LKG, mais on appelle ça plutôt des frameworks, où on passe du design à la génération des applications. Et aujourd'hui, on a même des systèmes qui s'appuient sur de l'IA qui arrivent à créer des applications web de manière totalement automatique. Dans notre filiale Celseon Fortitude, pour développer notre logiciel d'aide à la production, on utilise Django. Encore une fois, le cœur du système d'information des entreprises, hein, ETI et grand compte, s'appuyait massivement sur des architectures centralisées de type mainframe. Et c'était juste les applications en périphérie qui étaient développées en client-serveur à travers les LKG, les ateliers de génie logiciel, on les appelle comme on veut. Et quand on dit aujourd'hui que ces époques-là étaient innovantes, certes, elles étaient innovantes, mais je pense beaucoup moins qu'aujourd'hui. Notamment, il n'y avait pas de contraintes de sécurité à cette époque-là. Les réseaux était fermé, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas d'attaque, il n'y avait pas de virus, il n'y avait rien. Le réseau, il y en avait très très peu, c'était des réseaux propriétaires type SNA d'IBM ou DSA de Bull, TCP/IP, il n'y en avait pas dans les entreprises. Quand le monde s'est ouvert à l'extérieur à travers l'internet, il y a eu une nécessité d'innover dans tous les sens. Ça a effectivement apporté de la valeur aux entreprises, mais ça a aussi apporté un lot de complexité qui n'était pas le cas par le passé. Effectivement, des équipes de développement qui étaient beaucoup plus importantes que les équipes de production. Moi, j'ai eu l'occasion de commencer ma carrière dans un grand laboratoire pharmaceutique. Il y avait un ingénieur réseau. La société n'existe plus puisqu'elle a été rachetée moult fois et aujourd'hui, c'est un géant mondial pharmaceutique. Déjà, il n'y a pas que qu'une équipe réseau, ils en avoir pléthore, et une équipe sécurité qui doit être aussi pléthorique, et des ops, de la production qui doit être beaucoup plus importante. Et peut-être avec une part de développement un petit peu moins importante, plutôt fonctionnelle, des gens qui vont faire des cahiers des charges, qui vont piloter peut-être des prestataires et ou acheter des solutions SaaS pour répondre à leurs besoins. Après, il y a aussi dans ce temps l'émergence d'éditeurs de logiciels qui ont, à partir des années 90, tous les outils de gestion de production, de gestion commerciale, Cybelle avant Salesforce, etc., etc., qui ont permis de répondre plus rapidement que de développer des solutions propriétaires. On est passé du monde make au monde buy. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant de penser à faire quelque chose de propriétaire, on commence avant tout à regarder sur le marché. Quand on allait voir une grande compagnie d'assurance dans les années 80-90, l'UAP expliquait que AXA, c'était pas du tout le même métier. Alors qu'aujourd'hui, déjà, y a, l'UAP, c'est AXA, c'est le premier point, mais AXA et Allianz, ils font exactement le même métier, ils en sont conscients, donc ils vont pas se battre sur la spécificité de leurs produits, mais comment aujourd'hui ils traitent avec intelligence leurs données pour créer des nouveaux produits. Donc la démarche elle est totalement différente. Donc ils vont étudier la possibilité d'acquérir des solutions, mais surtout de comment ils vont optimiser l'usage de celles-ci. Donc ce qui s'est passé au niveau du logiciel, bah se passe au niveau de la production avec l'émergence du cloud computing et des plateformes de cloud public. Sur le futur de l'avenir, donc c'est très très difficile à imaginer en fait. Et j'en discutais avec un bon patron informatique d'un opérateur connu qui disait qu'aujourd'hui, c'est difficile d'imaginer puisque quand on prenait une décision il y a encore quelques années avec des moyens d'une direction informatique importante, si on se trompait, on avait l'occasion de donner un coup de gouvernail et puis avec quelques investissements supplémentaires, quand on s'était trompé, on pouvait redresser la barre et en ayant eu tort, avoir raison quelques mois après. Aujourd'hui, les choix qui s'offrent au DSI sont assez diamétralement opposés. Quand on prend une voie, c'est très 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 difficile de faire machine arrière et même avec des gros moyens, c'est compliqué. Après, ce que l'on voit, c'est des changements d'organisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, les clients ont compris qu'il y avait nécessité d'avoir des couches basses qui étaient des espèces de cloud orchestrés qui peuvent être des clouds privés internes ou des clouds externes, publics, ou voire l'hybridation entre les deux, au-dessus des couches d'ops. Ensuite, effectivement, le développement applicatif ou l'intégration de plateformes SaaS, l'intégration de logiciels. Et puis, la quatrième couche étant le poste de travail. Ce qui est intéressant dans l'avenir, c'est, ça va être de suivre l'évolution de la perception des entreprises sur la gestion des environnements de travail. C'est le sens de l'histoire et c'est le sens que donne Celseon à sa stratégie avec cette vision de fusion des environnements de travail entre mobile et poste dit lourd. Et effectivement, la disparition de macOS est un signal fort, ce qui veut dire qu'effectivement aussi, le corollaire, c'est que l'orchestrateur de ces environnements de travail sera plutôt un MDM que des logiciels issus du passé.
Embarqué pour l'environnement de travail du futur avec Celseon, expert en virtualisation du poste de travail, un dossier à retrouver sur le site visionarymarketing.com.